sur la touche, sur celui-là, si j'ai fait tourner.
Bon, alors, je vais pas trop vous parler d'oreilles. On va simplement essayer de regarder un petit peu ensemble quelques aspects qui peuvent nous aider à... dont on risque d'avoir besoin. C'est-à-dire, je vais vous donner quelques indications sur ce qui s'est passé dans les plongées très profondes, surtout au début. En ce qui concerne la plongée à l'air, ou les interventions hyperbarrières, parce qu'il n'y a pas qu'à plonger. Et puis, je vous donne un petit résumé sur ce que c'est que la sursaturation hyperbare, puisqu'il en est question dans l'article que vous avez peut-être vu, et que la sursaturation isobare. Et puis, un petit truc sur les bulles quand elles passent du côté inférieur. Donc, en ce qui concerne les plongées très profondes, dès les premières plongées à grande profondeur, en particulier une des plongées fameuses qui a été faite par M. Delos et Brouwer à 350 mètres, eh bien, Henri Delos a eu un accident vestibulaire à la décompression dès le début de la décompression. Donc, voilà un cas historique qui montre un cas sur deux, pour deux personnes exposées, un accident vestibulaire. Pas très longtemps après, en 1970, chez les Anglais, au laboratoire de recherche de physiologie de la marine, deux plongeurs ont été comprimés à 460 mètres, c'était les premières plongées, la première fois qu'on allait là, les deux ont eu un accident vestibulaire. Ça a été un peu compliqué parce qu'ils étaient arrivés vers 400 mètres quand ils ont eu leurs symptômes. Ils ont été recomprimés, ils ont tous les deux perdu connaissance, ce qui fait que les gens qui conduisaient la manif se sont trouvés avec deux plongeurs inconscients à 450 mètres, où personne n'avait jamais été. Donc, vous voyez, la situation est un peu tendue, mais ils ont récupéré. Et ils ont été finalement décomprimés, mais ils ont eu des symptômes et des séquelles. Ensuite, au CEMA, au Centre d'études marines avancées, où j'étais, plongé à 500 mètres, on s'est décomprimé au bout de 400, alors que dans les manifs de saturation précédentes, on n'avait fait que des sauts de 50 mètres. Là, on a fait des sauts de 30 mètres dans la nuit, donc avec une vitesse qui était difficile, mais qui était totalement trop rapide. On a eu un accident vestibulaire caractéristique et qui s'est manifesté un petit peu avant 400 mètres au réveil. Avec, évidemment, pour la partie soins, prise en charge, une grosse difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas recomprimer, compte tenu de l'expérience des autres 6 mois. Bon, finalement, il a récupéré, mais il a eu des séquelles et il a eu un vestibule endommagé, définitivement. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont dans la zone très profonde, mais qui sont très spécifiques, sans aucun autre symptôme que vestibule. Et puis, là, je prends un exemple beaucoup plus récent, qui date de l'année dernière. Il y a eu une plongée spéléo qui a été faite à 209 mètres, en mélange ternaire sur circuit semi-fermé, et le plongeur, qui était seul, s'est retrouvé avec un accident vestibulaire majeur à 96 mètres dans sa galerie. Un cas sur un, puisqu'il n'y a qu'une personne exposée. Il est ressorti vivant, mais avec des séquelles sérieuses à la sortie, enfin... Accident vestibulaire dans une galerie de spéléo à 96 mètres où on ne trouve plus ni le haut ni le bas et où on vomit à tour de bras, en semi-fermé, n'importe qui s'en sort pas. Bon, mais il en est sorti et il a des séquelles. Donc voilà simplement pour vous montrer que dans la zone de très grande profondeur, on peut avoir des accidents labyrinthiques de décompression qui n'ont aucun autre symptôme associé. Après, quand il est arrivé plus vers la fin de sa décompression, il a eu d'autres complications de décompression. Mais pendant toute cette phase très profonde, il n'a eu que des symptômes labyrinthiques, du moins ce qu'il a pu décrire et ressentir dans les conditions où il était. Donc voilà, c'est simplement une petite liste pour vous montrer que c'est strictement spécifique. Puis j'en ai eu peut-être d'autres cas similaires sur d'autres plongées que je n'ai pas cité. Alors, en ce qui concerne la plongée à l'air ou les interventions à l'air, bah, j'ai ouvert le bouquin de Paul Bert, j'ai ouvert dedans, parce que dedans, vous avez des descriptions cliniques de centaines de cas d'accidents de décompression neurologiques gravissimes, dans tous les genres, paralysie, explosion de sas, c'est dramatique, c'est effrayant même, le nombre de cas décrits, mais c'est décrit avec l'œil d'un médecin qui ne sait pas du tout de quoi il s'agit, et qui décrit ces paralysies. Eh bien, étonnamment, il y a extrêmement peu de descriptions de cas de vertige ou de nausée. Sur ces centaines d'accidents qui sont décrits, j'ai trouvé dans les tubistes, pour ça qu'il y a un T, pour les tubistes, un seul cas avec une description de perte d'équilibre et de vomissement et de vertige majeur. Tout le reste, c'est des paralysies, c'est des pertes de sensibilité, enfin, la description classique de l'accident neurologique. Avec des troubles nerveux, sans trop, quand même, aussi. Enfin, bon, mais vestibulaire, enfin, faisant penser à un accident vestibulaire, enfin, donc vomissement, perte d'équilibre, ou impossibilité de marcher autrement que à cause de la paralysie, pratiquement un seul cas. Et pour les plongeurs, ils en décrivent moins, il y en a moins, mais il y en a pas mal avec tous les pêcheurs d'éponges, les pêcheurs de Grèce, de Tunisie. Il y a toutes sortes d'accidents de décompression non soignés, donc si vous savez ce qui se passe quand on fait une fois des accidents de décompression, vous allez là, vous allez voir qu'il y en a, au bout de deux jours, ils n'ont plus rien. Enfin, ils disent qu'ils n'ont plus rien. Enfin, on va en discuter. Enfin, bon. Un seul avec, et il dit, tournoiement de la tête. Bon, mettons que ce soit quand même ce type de symptômes, associé à d'autres signes. Ce n'est pas des choses que... Mais il y en a très très peu sur des centaines d'accidents neurologiques graves. Donc c'est étonnant. On pourrait s'attendre, compte tenu de ce que vient de dire Alain, que lui en aurait vu. Ben non, très très peu. Mais attention, c'est des interventions, 3 bars ou 30 mètres, 5 heures, et sorti en 2 minutes. Hein. Donc c'est des trucs, c'est pas étonnant qu'ils aient des problèmes. C'est des plongées, enfin, des expositions, en particulier les cubistes, vraiment, c'est étonnant qu'il y en ait eu, qui ait survécu. Mais là, on a quand même des choses intéressantes à dire. Alors ensuite, dans Plongée de loisirs, il y a de nombreux exemples. Je vous en donne aucun, puisqu'il y en a un certain nombre de cas qui sont ici, donc moi, je n'en ai pas à vous raconter. Dans l'entreprise de travaux sous-marins où j'étais, pendant les 13 années où j'y ai travaillé, on n'a eu qu'un seul accident à caractère vestibulaire. On avait en moyenne quelques cas de douleur, mettons 7 à 8 par an. Des accidents neurologiques, on n'en a jamais eu, et le seul qu'on a eu avec quelque chose qui s'apparente au neurologique, c'est un accident vestibulaire, mais qui était lié à une erreur de décompression. C'est-à-dire que c'est un plongeur qui est remonté, n'ayant pas fait la décompression prévue, parce que des questions techniques l'ont empêché de la faire. Donc c'est pas un problème de date, c'est un problème de sortie trop rapide, reconnue. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Et puis, chez les tubistes, alors depuis l'étape de 1992 du ministère du Travail, il y a un cas, je connais un cas, d'accident vestibulaire caractéristique, qui s'est fait après une décompression à l'air, donc ce n'était pas dans la catégorie officielle. Il a été identifié quelques minutes, donc 10 minutes ou un quart d'heure après la sortie du SAS. Et 10 minutes après, il a été recomprimé à 12 mètres, c'est fini. 12 mètres d'oxygène, ça suffit. Il a été suivi par médecin au téléphone. Il a plus eu du tout de vertige dès qu'il a été recomprimé, et c'est ça fait tout de suite. Mais il y a eu un quart d'heure de délai. Donc voilà un petit panorama de quelques cas de problèmes qui sont typiquement labyrinthiques. Alors maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de la sursaturation isobare. Bon, j'en ai déjà parlé à quelques-uns d'entre vous avec les cours du TU, mais peut-être qu'il faut y revenir un petit peu. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de phénomènes qui se produisent quand on change les gaz respirés ou les gaz dans l'environnement dans lequel on vit. Et on peut le faire de deux façons. Soit on change de milieu. Alors, si on dit isobare, ça veut dire sans changement de pression. Donc, imaginez que vous êtes saturé à une certaine pression dans un certain environnement et vous changez le gaz et donc ce que vous retirez, mais ce qui est votre environnement dans lequel vous êtes immergé. Ou bien, vous pouvez changer de gaz en respirant au max quelque chose sans changer l'extérieur. Et on a des situations qui sont assez différentes dans ces deux cas de figure. Alors, je vais vous donner deux façons d'interpréter la chose. Il en existe d'autres, mais bon, c'est des deux peut-être qui peuvent vous servir pour l'oreille. Alors, changement de milieu, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous tracez en fonction du temps l'évolution des gaz dissous mesurés en pression partielle, eh bien, si vous avez une pression hydrostatique donnée et une pression partielle de gaz inerte correspondant à ça avec une pression partielle d'oxygène qui se trouve entre les deux, et que vous respirez par exemple de l'azote, vous êtes donc saturé à l'azote, avec, par exemple, j'ai pas mis d'unité, de toute façon, c'est ce qu'on vit en ce moment ici. Hein. Ici, ça fait 210 millibars, là, c'est un peu moins de 80%, mais bon, ça reste à peu près la même chose. Et que, brutalement, vous décidez que vous passez dans une pièce à côté, dans un autre compartiment de saturation, dans une ambiance qui aura la même composition d'oxygène, mais qui sera constituée d'hélium-oxygène. Eh bien, l'azote va sortir, puisque votre poumon ne voit plus d'oxygène. D'azote. Donc l'azote va sortir avec, pour chaque compartiment, une période exponentielle, caractéristique. Bon, on peut penser qu'elle est exponentielle, au moins pour simplifier. Pendant ce temps-là, eh bien, à partir du moment du changement, vous voyez le point de changement, le point de changement se trouve ici, et à partir de ce moment-là, la dot qui sort laisse la place, en quelque sorte, à l'hélium qui rentre. Et la période utilisée pour la plupart des compartiments avec l'hélium est plus rapide que la période de l'azote. Ce qui veut dire que la sortie de l'azote se fait moins vite que l'hélium ne rentre. Et on obtient une charge d'hélium jusqu'à saturation à l'hélium qui prend un certain temps suivant le compartiment que vous avez choisi. Faut 6 périodes pour arriver à l'équilibre. Et si vous additionnez maintenant les quantités de gaz dissous qui se trouvent dans ce compartiment, à un moment donné, ça revient à prendre la hauteur de ce petit morceau et de le mettre au-dessus du morceau. J'ai un truc pour montrer là. Si vous additionnez les deux, vous trouvez une courbe qui a cette allure. Et vous voyez qu'à partir du moment où la courbe pointillée violette coupe la pression hydrostatique, vous êtes en sursaturation. C'est-à-dire que vous avez trop de gaz inerte dissous par rapport à la pression hydrostatique ambiante. Résultat, ils sont en début. Ils sont en début, et évidemment, le pic. Voilà, merci.
Il ne marche pas trop fort, c'est pas le cas.
Donc, vous. Ouais, c'est, oui, ben, il ne marche pas longtemps. Hein.
Je crois que.
Ah, il y a deux positions. Il y a une position on voit et une position on voit pas. Donc vous voyez, l'hélium rentre ici, l'azote sort, la somme des deux. Bon, c'est trop compliqué pour moi. La somme des deux fait que le résultat, c'est la ligne violette pointillée. Et vous avez donc une sursaturation isobare qui est la dose orange. Vous avez compris? Bon. Donc là, voilà la zone de sursaturation isobare. Alors, ce qu'on voit dans ce phénomène, c'est que c'est un phénomène transitoire. Il va durer à peu près 6 fois la période du tissu du compartiment que vous avez pris en compte. Si vous considérez un compartiment relativement rapide, ça va pas durer longtemps. Si vous prenez un compartiment qui fait une vingtaine de minutes, par exemple, pour la zone, eh bien, votre phénomène va durer de l'ordre de 6 fois 20 minutes. Mais c'est un phénomène transitoire, c'est-à-dire que l'effet va disparaître spontanément au bout d'un certain temps. Le deuxième cas où vous changez le gaz que vous respirez en le faisant au masque, par exemple, eh bien, on va se trouver dans une situation différente. Alors, la représentation est complètement différente, je vous l'explique au fur et à mesure. Ici, vous avez une échelle de pression vers le haut et un intervalle entre deux zones qui définissent, d'une part, l'ambiance hélium extérieur, et vous retrouvez la pression hydrostatique, la pression partielle d'oxygène et la pression d'hélium qui caractérise l'environnement extérieur. Entre les deux, ici, vous avez une zone de diffusion, une barrière de diffusion, par exemple, éventuellement la peau. Voilà la barrière de diffusion entre ces deux zones. La deuxième zone se trouvant ici, ça serait du sang artériel. Saturé, par exemple, d'azote, puisque vous avez pris de l'azote au masque. Vous êtes dans une ambiance d'hélium, vous prenez un masque avec de l'air, et vous restez à la même pression. Alors, si c'est de l'air, la pression partielle d'oxygène n'est peut-être pas la même, mais là, j'ai supposé que le mélange était avec la même pression partielle dans les deux cas. On va donc se trouver avec une zone de diffusion dans laquelle l'azote provenant du sang artériel va diffuser à une certaine vitesse, et l'hélium provenant de l'autre côté, va diffuser dans l'autre sens. Alors, comment ça se présente? Ben voilà, par exemple, l'hélium. Alors, j'ai montré par cette droite, c'est peut-être pas forcément une droite, mais au moins, c'est un schéma, plus la diffusion est rapide, plus cette droite est horizontale. C'est-à-dire que si la diffusion est extrêmement rapide, la barrière très faible, vous avez une pression partielle dans toute cette zone qui est égale à ce qu'avait l'hélium. Donc, la pente de cette droite ici, ça va être horizontal. Vous voyez, si la diffusion de l'hélium est très rapide, c'est horizontal. Si elle est très lente, c'est très vertical. Donc j'ai mis une valeur moyenne pour l'hélium, c'est un schéma. C'est pas quantifié. Et la dose, dans l'autre sens, diffuse moins vite. Ce qui fait qu'on va avoir une diffusion avec une pente plus grande dans le sens inverse. Et on se retrouve avec un gradient d'hélium dans un sens et un gradient d'azote dans l'autre sens, qui fait que si on les additionne, on obtient tout au début du côté de la peau, vous voyez, on est en sous-saturation, les pointillés orange commencent en dessous de la pression hydrostatique, mais très vite, la somme des deux courbes nous met au-dessus. Et il va apparaître ici une zone de sursaturation isobare, parce qu'on n'a pas changé la pression. On va trouver ici. À ce moment-là, il y a une très grande différence, c'est que le sang artériel est en permanence renouvelé ici. Et la sursaturation isobare, elle va évidemment avoir lieu dans la barrière de diffusion, mais peut-être que celle-là n'est pas très gênante. Encore qu'on pourra réfléchir aux barrières de diffusion qui peuvent se trouver dans l'endolymphe et dans la périlymphe de l'oreille. Ça peut faire partie du scénario. Même si ce n'est pas de l'ambiance hélium qui est de l'autre côté, mais un autre tissu saturé développe. Mais le sang est toujours renouvelé, ce qui fait qu'il va, va perdre moins d'azote, il ne gagne d'hélium. Ce qui fait que le sang veineux qui sort ici, eh bien, il est sursaturé. Il s'est enrichi en gaz inerte au passage. Parce qu'il a perdu un peu d'azote et gagné plus d'hélium. Et donc, on a une sursaturation isobare aussi circulatoire, qui va aller se promener ailleurs. Et puis surtout, c'est un effet continu. C'est-à-dire qu'une fois que c'est enclenché, c'est permanent. C'est un état stationnaire qui va durer tant qu'on ne changeait pas les gaz respirés. C'est-à-dire que si cette sursaturation est susceptible de générer des bulles dans la zone de barrière de diffusion, eh bien, ça va entraîner éventuellement ce qui a été observé, y compris chez l'homme, une irritation cutanée extrêmement forte. Et si, au contraire, c'est des bulles qui sont artérielles, enfin veineuses là, circulantes, eh bien, leur devenir va pouvoir créer des symptômes d'accident des compagnies. Et on a observé dans les expérimentations de diffusion isobare sur l'homme, dans un cas, dans une même intervention plongée, avec changement de gaz, trois accidents labyrinthiques simultanés. Donc ça marche. Et ça atteint le labyrinthe. Donc ça nous concerne aujourd'hui. Même si c'est très profond, ce n'est pas la même situation que celle à laquelle on pense. Alors maintenant, un troisième petit point avant qu'on attaque le sujet vraiment. Le problème du devenir des bulles quand elles sont artérielles. Alors, quelle est l'origine d'une bulle artérielle? Une bulle, elle peut être artérielle, je vous dis, pour différents cas. D'abord, ça peut être une bulle veineuse qui va passer par un foramen ovale. Bon, celle-là, on en a beaucoup entendu parler. Et elle va passer de l'autre côté. Elle peut être d'origine veineuse et se trouver pas sans foramen ovale, donc elle va partir vers le poumon. Elle peut être à l'origine créée par la cavitation cardiaque, le tout partant vers le poumon. Là, il peut y avoir des chaînes artério-veineuses, donc il peut y avoir des passages naturels ou provoqués. Il peut y avoir forçage du capillaire alvéolaire si la quantité de bulle devient importante. Tout ça fait que la bulle passe de l'autre côté et qu'elle va se retrouver sur l'autre versant. Bon, alors après, il s'agit de décider qu'est-ce qui va lui arriver. Est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça l'est pas? Alors, quand elle passe de l'autre côté, elle est dans des gros tuyaux qui vont devenir de plus en plus petits. Donc elle va terminer dans un capillaire. Lequel? Mystère. Et en tout cas, ce n'est pas la force centrifuge dans la horte qui va générer ça, parce que vous savez que quand on centrifuge des bulles, elles viennent au milieu. Enfin, après, c'est devenu lourd qui vont à la périphérie. Donc, en plus, ces bulles sont tellement petites qu'elles ne flottent pas. Et que donc elles suivent le sang et se déplacent à la même vitesse que le sang. Donc, si ce captage se fait dans un tissu qui est sous-saturé ou désaturé, parce que la décompression a déjà permis de le vider, parce que ce passage pulmonaire prend par exemple du temps. Alors, dans un foramen ovale, on a peu de chances d'arriver dans un tissu désaturé, par contre, on peut arriver dans un tissu sous-saturé pour une plongée courte. Par contre, si on est dans un forçage pulmonaire, ça aura pris du temps, et il se peut très bien, par exemple, que des tissus rapides comme le cerveau soient désaturés et que les microbules qui pourraient y aller, eh bien, elles arrivent dans un tissu sous-saturé ou désaturé. Eh bien, dans ce cas-là, la bulle est collapse. Parce qu'elle va se trouver dans un environnement où l'azote va avoir tendance à sortir. Dès que l'azote sort, le diamètre de la bulle diminue, Et grâce à la tension superficielle, sa pression augmente et l'azote va sortir. C'est un truc que je vous ai déjà expliqué à quelques uns entre vous. S'il y a besoin, on peut y revenir. C'est une autre chose que je peux vous montrer. Mais enfin, en gros, si cette bulle arrive dans un endroit qui manque d'azote, qui ne peut pas la faire grossir, eh bien, elle va disparaître. Tant mieux. Et puis, elle collapse complètement. Par contre, si elle arrive dans un tissu qui est encore saturé, c'est-à-dire soit qui ne s'est pas vidé, soit qui est à un niveau de saturation important parce qu'on est, par exemple, en phase de décompression, eh bien, la bulle grossit. Elle grossit. Et si elle grossit, elle peut se trouver à grossir dans un tissu qui n'a pas de fonction physiologique importante, pas de moyen de percevoir, de mesurer, de vous faire savoir qu'il y a une bulle dans ce tissu. Ben, vous ne saurez jamais, et ça ne fera rien, et ça ne fera pas de symptômes visibles. Il y aura peut-être des petites choses biochimiques, à long terme, d'inflammation, mais pas des choses graves du genre de cette. Donc ici, aucun effet visible. Oui, je suis prudent, hein. Aucun effet visible. Si elle grossit et qu'au contraire, elle va dans un tissu avec une étio hasard, hein, c'est réparti totalement en fonction de la probabilité de perfusion de chacune des deux. Si par contre il y a une fonction physiologique majeure, eh bien là, vous allez avoir des symptômes de cette fonction. Et si ça va dans l'oreille, eh bien vous aurez des symptômes de l'oreille. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour la mise en forme.
Ça va ? Et qu'on est tout à fait, là, vous dire qu'on n'est pas au problème, tout à fait dans le problème, puisque, en fait, c'est l'accident qui était connu quand il avait pris une plongée profonde, l'accident, les problèmes avec les échanges de gaz, et c'est malheureusement, malheureusement, je ne sais pas ce qu'on commence à connaître à l'heure actuelle. Voilà, donc on est directement dans le sujet avec les histoires d'échanges de gaz, avec les deux positionnements qu'il nous a fait, hein, l'échange de gaz à un niveau, et c'est, ça se passe assez souvent, c'est l'échange de gaz au masque. On est tout à fait dans le problème qui nous intéresse, qui nous pose réflexion. Donc c'est très bien. Donc à partir de là, je ne sais pas sur.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce.
Sur, voilà. Est-ce que sur là-dessus, ça va sur les histoires de sursaturation, les histoires de contre-diffusion, hein, ce qui nous a fait avec la peau, les deux tissus, etc. Ça va? Vous êtes d'accord? Il y a des problèmes? On continue? Bien sûr, je prendrai la parole parce qu'on a des questions à poser. Bon, est-ce que tu me parles de ton papier que tu voulais?
On s'est jeté à l'eau, hein. Pour des plongeurs, c'est la moindre des choses.
Tu t'es jeté à l'eau pendant combien de temps, là?
Oh, 5 minutes.
5 minutes?
Ah oui, j'ai fait quoi?
Ça a pris 25 minutes. Il n'y a pas eu un mot, donc ça peut intéresser tout le monde.
Bon. Tout le monde ferme le temps. C'est génial, il nous a mieux chopé comme ça.
Il y a plus de temps.